Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Super Mario World 2 Yoshi's Island, sorti en 1995 sur Super Nintendo et développé par Nintendo. Il sera comparé aux autres jeux de la série des Super Mario Bros, notamment au regard de la notion du temps qu'on y trouve traditionnellement.
Première partie, présentation et problématique.
Des nombreux avatars qu'a pu connaître la série des Super Mario Bros en deux dimensions, nul n'est plus fameux que Super Mario World 2 Yoshi's Island. Cet épisode est effectivement remarquable à plus d'un titre. Il est remarquable par son parti pris graphique, en s'inspirant des crayonnés et du pastel d'un enfant en bas âge, alors que Donkey Kong Country, un an auparavant, ouvrait la voie à des représentations tridimensionnelles du meilleur aloi. On raconte d'ailleurs que Nintendo avait demandé à Shigeru Miyamoto d'élire cette façon de dessiner, et que le choix final est un contre-pied parfait de ses recommandations. L'anecdote a depuis été vérifiée, et à grand raison. Ces graphismes enfantins ne font pas oublier cependant la débauche technique permise par la puce Super FX 2, qui permit à la vieillissante Super Nintendo de proposer des effets de distorsion, de transparence et de grandiloquence, rarement entrevus jusqu'alors, et faisait oublier le retard pris par la Nintendo Ultra 64 qui était, une fois encore, repoussé. Cet épisode est remarquable aussi par sa richesse. En délaissant la liberté acquise par Super Mario Bros. 3, Super Mario Land 2, Wario Land ou encore Super Mario World, la linéarité de Yoshi's Island semblait comme un retour en arrière, judicieusement compensée cependant par le très grand nombre d'idées de gameplay. Chaque niveau introduit un nouveau mécanisme, un nouveau labyrinthe. Ici, l'on se transforme en hélicoptère ou en sous-marin. Là, on voltige sur les albatros. Ailleurs, on échappe au toutou-bombe, où l'on pousse devant soi, pour tout un niveau, un rocher nécessaire pour atteindre de précieux bonus. Certains magazines de l'époque disaient qu'un seul niveau de Yoshi's Island contenait plus d'idées que d'autres jeux dans leur totalité. Et même encore aujourd'hui, on ne peut vraiment se convaincre du contraire tant l'ingéniosité du titre faisait, a fait, et fait école aujourd'hui encore, au point que les suites plus ou moins avouées de cet épisode, de Yoshi's Story à Yoshi's New Island, ne paraissent que de pâles copies de ce coup d'essai qui a tout du coup de maître. Si cet épisode est remarquable cependant, c'est aussi par son départ avec la série canonique des Super Mario Bros, du moins de ce qu'on en connaissait alors. Première nuance de taille, ce n'est plus le sémillant Mario que l'on contrôle, mais son ami Dinosaur, magistralement introduit quelques années plus tôt. Ensuite, le système des power-up est laissé absent, un coup déstabilisant Yoshi et libérant son précieux colis, bébé Mario, qu'il transporte vaillamment malgré les dangers. Enfin, le système de score et de temps, que l'on trouvait depuis Super Mario Bros, a entièrement disparu. J'ai évoqué à plusieurs reprises cette étrangeté, et je renvoie ainsi à certaines émissions traitant, plus ou moins obliquement, de cette problématique, notamment la quatrième sur Megaman qui reprend cette thématique directement, la treizième sur la notion de virtualisation dans Donkey Kong Country, et la 26e sur les notions de vie et de mort dans Super Meat Boy. Notre émission présente reprendra et s'inspirera des concepts et des analyses que nous avions élaborées alors. Je les résume ici rapidement avant de poser notre problématique. Nous avons considéré que le score, dans un jeu vidéo, et plus largement que n'importe quel élément chiffré, était un élément de continuité sémiotique, et qu'il permettait de construire une narration dans un ensemble qui pouvait paraître segmenté, à l'instar des différents niveaux de nos jeux vidéo. Aussi, en son absence, il convient de réintégrer un autre instrument de continuité sémiotique pour construire une narration. Dans Yoshi's Island, c'est le choix qui a donc été fait de la linéarité pour compenser l'absence, du moins dans l'écran principal du jeu, de toute indication de temps ou de score. Nous avons aussi montré qu'un jeu vidéo utilise pour construire sa narration un double écran, comme un calque apposé sur le jeu et qui servait d'interface avec notre entité joueur. Que les relations entre ces éléments sont complexes, mais que son absence permet de réaliser, et non pas de virtualiser, notre impression du jeu. Yoshi's Island apparaît donc comme un jeu réaliste dans le sens où il l'élimine parfaitement et relègue à un sous-écran les signes vidéoludiques de sa progression, comme les bonus collectés. Enfin, nous avons montré que la mort, dans le jeu vidéo, tire immédiatement du côté de la virtualisation, et qu'il faut l'intégrer diégétiquement pour compenser cette impression première. Yoshi's Island résout cela par l'intermédiaire d'une scénette, montrant bébé Mario être emporté par les sbires de Kamek en cas d'échec du dinosaure. Notre problématique, alors, se noue dans les creux de ces éléments. Yoshi's Island n'a pas d'indication de score, certes, mais un compte à rebours s'enclenche lorsque Mario se fait enlever, et ce dernier ne peut que renvoyer à celui que l'on trouve, mettons, dans Super Mario Bros., premier du nom, sa finalité conduisant nécessairement à la perte d'une vie. Le double écran de Yoshi's Island est relégué au menu pause, certes, mais le compteur de temps apparaît bien pendant qu'il s'incrémente ou se décrémente, et c'est d'ailleurs le seul élément de cet ordre que l'on verra dans l'aire de jeu principal. Enfin, la scénette qui se joue lors de l'enlèvement de Bébé Mario réalise certes le propos, mais c'est la seule qui se déclenche dans le jeu, à l'exception des cinématiques de début et de fin d'aventure, et elle est dépendante, encore une fois, de ce compte à rebours. Autrement dit, où que l'on regarde, ce compteur de temps, figuré par des étoiles dans Yoshi's Island, est la pierre de touche de nombre des mécanismes fondamentaux du jeu lui-même. On ne peut que l'interroger, et c'est ce que nous ferons ici, en posant la problématique comme suit. Quelle relation existe-t-il entre le compte à rebours se déclenchant lors de l'envolée de Bébé Mario suite à un choc et les réseaux de signes fondamentaux du jeu Yoshi's Island?
Deuxième partie, temps de l'histoire et temps de jeu.
Avant de rentrer dans le détail de notre analyse, comme toujours, faisons un petit détour théorique et observons la façon dont les jeux vidéo, ou à dire vrai n'importe quelle œuvre de fiction, traitent la question temporelle. Le temps est peut-être l'une des données les plus étranges de notre existence. Aujourd'hui, les scientifiques remettent en cause son existence en tant que telle, le temps n'étant vu que comme une conséquence de la façon dont notre esprit traite les informations et la notion de causalité. Sans rentrer dans ces détails, observons que nous sommes habités non pas par un, mais bien des temps dans notre vie quotidienne. Une seconde de douleur peut sembler durer des heures, une heure de bonheur peut passer en un clignement de cils. Notre temps est relatif et non pas absolu, et dépend de facteurs bien trop complexes pour être ici élaboré. Autrement dit, nous admettrons l'idée qu'un même événement peut être segmenté différemment du point de vue temporel selon le regard qu'on lui porte. Dans le cadre d'une œuvre de fiction, nous pouvons opposer deux grandes catégories, les œuvres atemporelles et les œuvres temporelles. Il est des objets fictionnels ou créés qui existent indépendamment du passage du temps, une peinture, une maison, un meuble a une existence complète dès la première unité de son existence comme objet. Nous pouvons certes l'observer plus longuement, mais quel que soit le temps mis pour l'observer, aucun autre élément n'apparaîtra. Nous pouvons opposer ces objets aux objets fictionnels, dont la complétion est dépendante directement d'une expérience temporelle. Un film, par exemple, se développe sur une certaine durée, et pour le parcourir en tant que tel, nous devons alors en faire la même expérience de temps. Le jeu vidéo n'est pas différent ici. La seule nuance, c'est que cette temporalité est variable selon les joueurs et les objectifs fixés. Mais que l'on termine, mettons, Super Mario 64 en considérant que la défaite du troisième Bowser marque la fin de la partie en 5, 10 ou 200 minutes, l'expérience du jeu doit faire les frais d'une évolution temporelle. Nous appellerons alors ce phénomène ici le temps du jeu, défini comme le temps mis réellement par l'entité joueur pour parcourir un jeu quelconque et arriver à sa complétion. Ce temps de jeu est, aujourd'hui, chronométré par les fichiers de sauvegarde, et il est égal, nonobstant les éléments non décomptés par certains jeux, comme l'exploration des menus ou certaines séquences non interactives, je pense notamment à Super Metroid, au temps effectivement passé par le joueur, manette en main. Mais à ce temps de jeu, nous devons opposer une autre façon de compter le temps, intradiégétique quant à lui, et qui explicite la façon dont les personnages au sein d'une œuvre de fiction vivent effectivement la temporalité. Nous voyons cela constamment. Un film, ainsi, peut nous raconter en 2 heures de temps réel une vie entière ou des événements s'échelonnant sur plusieurs mois. Et il en va de même du jeu vidéo. Considérons de prime abord un jeu de rôle comme Final Fantasy VII. Au cours de notre partie, nous parcourrons plusieurs journées de la vie des personnages. À chaque fois que nous dormons dans une auberge, un jour passe et nous reprenons au lendemain. Néanmoins, considérons ici un excellent joueur qui n'a nul besoin de dormir à l'auberge pour soigner son équipe. Il sera néanmoins obligé, à des moments circonscrits de l'aventure, de se soumettre à cette étape pour faire avancer l'histoire, car ainsi en ont décidé les développeurs. Ce temps de l'histoire est donc complexe à prendre en considération pour cette raison. Il est des jeux où le temps de l'histoire, soit le temps effectivement mis dans la diégèse, est constamment fixé et ne peut évoluer quels que soient nos choix. Prenons Super Mario Bros., premier du nom. Si nous considérons que les séquences souterraines, comme les niveaux 1-2 ou 4-2, ne se déroulent point en plus de 24 heures, nous pouvons établir que la quête de Mario dans le royaume champignon dure 2 jours et une nuit. Le monde 3 débute effectivement par un ciel noir qui indique que le soleil s'est couché et qu'il se relèvera par la suite. Quand bien même prendrions-nous une warp zone pour passer ce troisième monde, cela n'enlève rien à la temporalité construite par le jeu. C'est notre perception de celle-ci qui va différer, de la même façon que dormir dans nos vies ne fait pas accélérer le temps. Nous ne sommes juste pas conscients des heures passées. Revenons alors à présent sur Final Fantasy VII. Si l'on considère qu'un excellent joueur, ne dormant qu'au moment nécessaire pour faire avancer l'histoire, va comprendre que le temps de l'histoire dure, mettons, une semaine, un joueur moins bon, dormant plus régulièrement, considérera que les événements au sein du jeu durent un mois, voire davantage. Qu'est-ce à dire? Eh bien, nous arrivons ici à 2 conclusions fondamentales. Tout d'abord, que le temps de l'histoire dans un jeu vidéo, peut être dépendant des actions du joueur et ce malgré la présence d'éléments fixés qui cadencent sa progression. Deuxièmement, que ces éléments fixés, précisément, tracent un canevas dans lequel on ne peut s'échapper et qui prévaut sur le reste. C'est la raison pour laquelle, si l'on se rappelle, le météore menaçant de s'écraser dans Final Fantasy VII encore, reste en suspension quelles que soient les nuitées passées à la fin de l'aventure, et que les événements s'accélèrent, précisément, lorsque nous explorons le cratère. Le temps, dans un jeu vidéo, est donc fractionné, à la fois dépendant de nos actions et dépendant de la façon dont les développeurs l'ont effectivement conçu. C'est la plus complexe des œuvres temporelles à ce propos, et comme on le voit, cela est directement dépendant de l'interactivité qu'on y trouve, et ce, comme on pouvait légitimement s'y attendre.
Troisième partie, en avant et à rebours.
Il est néanmoins un endroit où chacun de ces temps, ou de ces lignes temporelles, s'accorde. Les comptes à rebours. Considérons une échappée d'un complexe menaçant d'exploser, à l'instar de Super Metroid ou de n'importe quel jeu de cet ordre. Le temps indiqué à l'écran, qui est un temps de jeu, correspond parfaitement au temps de l'histoire. Le personnage doit s'échapper avant la fin de ce compte à rebours, où son histoire s'arrête. Et s'il parvient à survivre, alors l'histoire continue. Mais au-delà de l'intérêt, peut-on dire, quant à l'action de cette séquence, quelle interprétation sémiotique peut-on en faire? Eh bien, considérons les choses ainsi. C'est le seul moment où, précisément, les temporalités s'alignent. Nous savons, par exemple, dans la série des Super Mario Bros, que le compteur en haut ou en bas de l'écran n'égrène point de véritables secondes. Les spécialistes parlent de game unit, chacune correspondant à un certain nombre de frames, mais chacune bien plus courte qu'une seconde de notre réalité. C'est un moment de grâce dans lequel l'inquiétude monte notablement, mais surtout dans lequel nos actions, en tant que joueurs, ont des conséquences directes sur l'écran de jeu. Cela donne une impression de causalité certaine. Ce que nous disions précédemment sur la nature physique du temps se rencontre ici. Mais il est autre chose. Car les comptes à rebours peuvent ne pas être absolus, donnés arbitrairement par les développeurs, mais modifiés par nos propres actions. Pensons aux courses contre la montre. Le joueur peut, par ses actions et ses décisions, augmenter le temps alloué pour finir un challenge quelconque. Je pense notamment à Crash Bandicoot 3, Warped, dans lequel le challenge du Time Attack est entièrement construit ainsi. Dans le niveau se trouvent des horloges qui viennent améliorer progressivement la performance du joueur. Mais souvent, celle-ci de se trouver hors de la voie principale, ce qui crée une balance intéressante. Doit-on perdre du temps pour en gagner, ou bien faire fi du bonus et poursuivre sa route? Pour ainsi dire, nous avons ici un mécanisme de réalisation, dans le sens que nous donnons dans cette émission à ce terme, et cela ne s'effectue pas par l'élimination des éléments du double écran, mais par l'accord entre les différentes lignes temporelles en jeu lors du parcours d'un jeu vidéo. Revenons à Yoshi's Island et tâchons d'observer à présent les façons dont le temps est considéré. Le temps de l'histoire se déroule, peut-on comprendre, sur plusieurs jours. Des niveaux se déroulent à l'aurore ou au crépuscule, en pleine nuit, le jour revient jusqu'à la fin de l'aventure, se déroulant peu avant le matin, comme le montre l'ultime cinématique où bébé Mario et bébé Luigi sont finalement délivrés à leurs parents. Nous avons donc là une opposition simple entre les différentes lignes temporelles, temps de l'histoire et temps du jeu. Mais ce principe entier change au moment où nous incorporerons le compte à rebours se déclenchant lorsque Yoshi prend un choc. À ce moment-là, ce sont de véritables secondes qui sont comptées et, éventuellement, rajoutées selon les bonus que le joueur récupère. Ces secondes ajoutées, égrenées, s'ajoutent finalement et l'on peut alors décompter le temps réellement mis par Yoshi pour parcourir un niveau, un monde, l'aventure entière. Mais évidemment, ce temps décompté ne pourra jamais correspondre au temps mis par Yoshi pour traverser l'aventure. En revanche, il vient comme segmenter des séquences de jeu particulièrement périlleuses ou, si le compte augmente, reposantes pour le joueur en alignant les temporalités entre elles. L'on pourrait imaginer que ces moments sont plus ou moins équivalents à un ralenti dans un film d'action. Ils viennent attirer le regard sur un moment circonscrit de l'aventure pour en augmenter l'intensité, le danger ou, au contraire, faire comprendre qu'il est possible de se reposer. Ce sont des indications de rythme, souvent superfétatoires dans un film certes, mais indéniablement efficaces. Ils introduisent une autre temporalité dans un ensemble cohérent, et nous sommes toujours très sensibles, en tant que joueurs, à ces changements en particulier.
Quatrième partie, rythmé et ligné.
Nous avons parlé de la question de la réalisation. Évoquons maintenant la question de la continuité et du rythme de l'aventure. Nous le disions, un score ou une indication de temps permet de créer une continuité sémiotique, une chaîne de causalité qui permet à notre progression de faire sens et d'établir une chronologie interprétable. Cette chronologie ou cette causalité, qui sont ici des notions synonymiques, vient en renfort de notre progression effective. On la trouve, dans l'histoire des jeux de plateforme, uniquement lorsque certaines conditions sont réunies. Premièrement, il ne faut pas que l'univers du jeu se déroule dans un seul, grand et unique niveau, sans démarcation claire entre ses parties. On peut songer à un jeu comme Kid Icarus ou les Metroid. Comme la causalité ou la chronologie de l'aventure est ici prise en charge spatialement, l'on n'a pas besoin de notion de temps ou de score pour la construire. Deuxièmement, il ne faut pas que le jeu présente des cinématiques scandant certains endroits de son aventure, non par leur signification, mais par leur succession. Nous avons cela ainsi, dans les Megaman, passé le premier épisode, où une scénette se déclenche lorsque certains Robot Masters sont défaits, et cela crée une continuité que le score ne pouvait pas assurer. En revanche, le temps et le score sont encore présents dans Super Mario World, puisque les cinématiques n'arrivent non pas après avoir complété un certain nombre de niveaux, mais seulement après avoir complété un château. Enfin, il ne faut pas que le jeu présente une carte linéairement disposée, mais plutôt des embranchements multiples. Une carte linéaire crée, par essence, une causalité, chaque événement créant une future étape sur notre progression sans ambiguïté aucune. En revanche, une progression à choix multiples crée un doute dans la façon dont les éléments s'organisent. Nous pouvons même revenir sur nos pas si besoin était. Cela empêche le jeu de faire sens par lui-même, ce qui exige de se rabattre sur d'autres indices pour créer la chronologie de l'histoire. Arrive alors Yoshi's Island, premier de sa race concernant cette problématique, car il nous présente une carte, celle-ci étant même un point crucial de son scénario. Mais elle est linéairement construite dans son sens le plus strict. L'absence de score ou de temps est alors légitime. Cependant, le chronomètre du jeu rajoute ici une chronologie étrange. Il nous semble que cette chronologie ne vient pas en ajout ou en remplacement de celle créée par la progression de l'aventure elle-même. Elle vient nuancer le rythme de cette progression. Comme le joueur ne peut pas influencer, par ses choix ou ses actions, le temps de l'histoire, il ne peut influencer que sur son rythme. C'est ici que le chronomètre rentre en jeu, dans tous les sens du terme, puisqu'il vient, en incorporant le temps du jeu, créer une forme d'urgence à l'aventure ou un repos agréable. Il faut se figurer la chose comme les ralentis dont je parlais plus haut. Ils permettent de créer des rebonds et d'inclure un mouvement dans une aventure qui, sans cela, aurait pu paraître effectivement plan-plan. Que l'on considère les choses ainsi. Quand bien même les aventures de Super Mario Bros. Pourraient s'aborder tranquillement, le chronomètre nous oblige à nous presser, et nous nous apercevons alors que chaque niveau est construit de façon à pouvoir être parcouru le plus rapidement possible. L'on peut toujours prendre son temps, certes, mais la célérité est souvent récompensée. Yoshi's Island, à côté de cela, est bien plus calme dans son déroulement. Si ce n'est le premier stage, tous les autres niveaux comportent des portes et d'autres zones dont la complétion est nécessaire pour progresser dans l'aventure. Il est très difficile de parcourir rapidement Yoshi's Island. Ses secrets, ses mécanismes de lancer d'œufs, la nécessité d'observer constamment son environnement pour progresser, font d'une partie une lente progression et non pas une folle chevauchée. Le compteur d'étoiles, apparaissant lorsque le joueur est en danger et s'incrémentant lorsqu'il accède à un checkpoint, vient rythmer et comme ligner la linéarité première de l'aventure. En ce sens, ce chronomètre n'est pas à interpréter, comme dans les Super Mario Bros., comme un instrument de continuité sémiotique, mais plutôt comme la façon de gérer le rythme de notre aventure et en l'accélérant, notamment lorsqu'un game over est proche. La cinématique que nous voyons alors, avec les sbires de Kamek emportant bébé Mario, n'est pas seulement la conséquence de la fin du compte à rebours, mais également un retour à un rythme plus calme. L'on connaît cela partout ailleurs. Une cinématique, dans un jeu d'action notamment, impose un changement certain dans notre progression. Ce changement s'apparente à un repos. Mais dans un jeu comme Yoshi's Island, l'on ne saurait être plus calme que le jeu lui-même, à moins d'avoir créé, auparavant, une accélération quelconque. Le chronomètre vient alors changer le rythme, l'accélérant, et la cinématique de Game Over rétablit la progression à laquelle nous étions auparavant habitués. Contrairement à ce que l'on comprend du rythme des Super Mario Bros. Traditionnels, le compte à rebours n'est pas un prétexte à se dépêcher, mais une chance de comprendre qu'il faut considérer les choses, au contraire, plus doucement. Ce n'est pas une punition, mais une occasion de comprendre ce qui s'est mal passé. Et c'est la raison pour laquelle, et ce sera là notre dernier point, ce chronomètre revient à 10 secondes si jamais nous étions proches de l'échec.
Cinquième partie, le danger imminent.
On s'apercevra dans Yoshi's Island qu'il n'est non pas une, mais deux façons de perdre une vie. Je ne parle pas des micro-variantes qui peuvent exister, qui font qu'une vie est perdue à cause de tel ou tel ennemi, mais bien la façon dont le jeu prend en considération notre échec. Ces nuances existent selon l'entité contrôlée qui échoue. D'une part, nous avons un game over lorsque Yoshi périt. Cela se produit notamment lorsqu'on chute dans un gouffre sans fond, lorsque nous tombons dans la lave ou lorsque nous touchons certains picots. Une petite musique déprimante se joue alors, l'écran devient noir, une vie est enlevé de notre stock. C'est là une mort des plus classiques pour un jeu de plateforme, et j'en ai déjà fait une analyse lors de mon émission sur Super Meat Boy. En revanche, il y a également la perte d'une vie causée par l'enlèvement de bébé Mario. Lorsque le compteur d'étoiles arrive à zéro, les sbires de Kamek surgissent dans l'aire de jeu, emportent le colis et volent vers la forteresse de Bowser. Yoshi, ici, est encore parfaitement vivant, C'est donc l'échec de sa mission fondamentale qui cause la fin de notre parcours. Cet échec est directement dépendant de la temporalité du jeu et non de nos actions. C'est, pour ainsi dire, une forme d'inéluctabilité qui conduit à notre perte. Sans faire de Yoshi's Island un genre de Memento Mori qui nous rappellerait, comme peut mieux le faire et comme je l'avais expliqué, les thématiques de Metal Gear Solid, force est de constater que l'inclusion du chronomètre dans un environnement qui, sans cela, ne prend en considération aucune notion d'urgence, crée un décalage perceptible. Il est intéressant de noter que, contrairement aux comptes à rebours habituels, dans Super Metroid ou ailleurs, ce n'est pas le personnage dirigé en lui-même qui échoue si nous ne parvenons pas à vaincre la montre. Autrement dit, nous ne sommes pas directement en danger lorsque le temps apparaît à l'écran. Il y a ici quelque chose qui, ce me semble, touche au fondement même de la narration du jeu, à son principe narratif premier, et qui vient consolider l'ensemble des décisions de gameplay. Que l'on se rappelle le prétexte du jeu. Bébé Mario tombe sur l'île des Yoshi, il décide de le ramener à la cigogne, Kamek et ses adversaires sont à leur poursuite. Contrairement au jeu Mario traditionnel où la quête est prospective, les plombiers devant avancer le plus rapidement possible pour sauver la princesse, ou que sais-je, mais sans qu'une pression particulière les oblige à se dépêcher, Yoshi's Island prend la forme d'une course-poursuite, comme cela est clairement indiqué dans l'introduction de l'aventure. Mais cette course-poursuite est bizarrement construite, car le rythme du jeu, nous le disions, est étonnamment tranquille. Cela est cohérent avec ses mécanismes et son principe premier, mais, comme disait Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'est point d'intérêt à jouer si l'objectif du jeu est nonchalant. Et c'est notamment la raison pour laquelle, parmi d'autres, Yoshi's Story, ou Yoshi's Island DS et consorts, ne parviennent pas à capturer l'essence du jeu original. La seule façon, alors, de concilier l'imminence d'un danger et le tranquille d'une progression, consiste à jouer sur les changements de rythme. Il nous semble alors que le compteur d'étoiles doit se comprendre non seulement fonctionnellement, soit comme le mécanisme qui fait perdre une vie, ou narrativement, comme la conséquence de l'échec de notre quête, mais également ludiquement, comme le contrepoids qui permet aux autres signes d'exister. Si la quête de Yoshi peut se permettre d'être nonchalante, c'est parce que des changements de rythme viennent constamment nous rappeler l'imminence d'un danger réel. Il y a cependant une balance qui doit s'effectuer ici. S'il ne restait, après une erreur, qu'une seule seconde au chronomètre, nous ne pourrions continuer à considérer notre aventure comme pastorale. Le game over est trop proche de nous. Il faut donc au jeu faire remonter cette somme à son niveau habituel pour que le rythme, précédemment accéléré, revienne à une stabilité apaisante. Nous parlions dans les épisodes précédents d'équilibre des signes vidéoludiques. C'est encore une fois quelque chose de cet ordre. Mais contrairement à ce que nous disions concernant Wario Land ou Super Metroid au regard de cette problématique, cet équilibre n'est pas nécessaire et immanent, mais contingent. Il survient uniquement à des moments circonscrits de notre parcours pour contrebalancer une monotonie qui, sans cela, pourrait être pesant.
Sixième partie, les séquences ludiques.
Cette question, de même que la précédente sur la saga Metroid, renvoie à la thématique des séquences ludiques. De la même façon qu'un roman ne peut être pris de façon monolithique, mais comme un ensemble composite de séquences ayant des visées littéraires distinctes, narrées, expliquées, argumenté, etc. Un jeu vidéo doit se considérer de la même façon. L'essentiel, de même qu'en littérature du reste, vient du nombre et de la succession de ses séquences. Il est des jeux qui ne se composent que d'une seule et même séquence, répétée à loisir, n'augmentant que la rapidité exigée pour compléter l'épreuve, tels les puzzle games, comme Tetris. Et il en est qui, au contraire, les multiplient à loisir, à l'instar, mettons, de Civilization, qui nous demande d'être gestionnaire, diplomate, guerrier, stratège, et ainsi de suite. Entre ces deux extrêmes se trouve tout un nuancier, couvrant l'intégralité des possibles. Les jeux de plateforme, ainsi, aussi entre des phases de jeu séquentiellement délimitées du type sauter et tuer des ennemis jusqu'à la fin du niveau, et des combats de boss qui demandent de changer la nature de nos actions. Yoshi's Island rajoute, sur ce canevas des plus classiques, une troisième séquence prise en charge par ce chronomètre, ce compteur d'étoiles, qui vient accélérer et décélérer les objectifs intermédiaires que nous devons prendre en considération. Il vient apporter une variété sémiotique sur ce qui était alors une monotonie symbolique. L'on pourrait croire que ces changements de rythme composent l'épine dorsale d'un jeu réussi, mais ce ne saurait être une formule magique. L'on sait par exemple que No More Heroes, premier du nom, a pâti, lourdement, de ce mélange incongru et ce bien que l'on puisse l'interpréter politiquement. A l'inverse, garder une seule et même séquence ludique peut créer une monotonie dommageable au plaisir de jeu, à l'instar des nombreux beats et mauls que nous pouvons connaître. Cette question ne saurait alors se comprendre uniquement en termes de quantité, mais bien en termes de qualité. Ce qui donne sens à une séquence ludique exotique, c'est son inclusion et la nature des séquences qui l'entourent. La chose fonctionne dans Yoshi's Island car le changement de rythme, mis en lien avec le principe narratif premier d'un côté et le tranquille du parcours de l'autre. Autrement dit, il fait réseau avec deux ensembles de signes distincts apparaissant comme le nœud qui permet à l'ensemble d'être soudé et solidaire. C'est une question complexe et, contrairement à ce que j'ai pu faire par le passé, l'on ne saurait créer une généralité à partir d'un jeu en particulier, aussi exemplaire soit-il quant à ses problématiques. Il semble que de la même façon qu'il est impossible d'élaborer des règles syntaxiques absolues explicitant la nature et les relations séquentielles d'un texte quelconque, on ne saurait analyser un signe ou ses réseaux et en tirer une conclusion globale. C'est encore dans l'expérience particulière et sensible de chacun d'entre nous que se noue la perception de ce qui est équilibré et de ce qui ne l'est pas.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
On pourrait faire une pub pour Getting to Know You, mais là j'ai la flemme.
Bah, ça peut être ça notre pub, non?
Ouais.
Getting to Know You sur Radio Kawa. Deux personnes, une conversation et zéro fil rouge.